un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est un peu notre Viviane Meyer à nous, sauf que lui n'est pas babysitter dans l'Upper East Side à New York, mais cheminot à Saintes dans les Charentes-Maritimes, et que ça n'est pas non plus Viviane Meyer. Chauffé par un collègue de la SNCF fou de photos, notre homme commence par créer le club photo SNCF de Saintes en 1955. Puis il se met à prendre lui-même des images en argentique, graphique, composées, léchées et bien éclairées, de la belle photo. Il y a des natures mortes, des femmes nues, des photos d'architecture. Toutes, dans leur genre, reprennent un style existant avec une certaine maîtrise. Et si on en croit le quotidien Sud-Ouest, pas peu fier de son héros, il sera le photographe amateur le plus primé de France, classé 4 étoiles par la Fédération internationale de l'art photographique, qui n'est pas le prix Niépce, mais regroupe quand même de nombreux clubs amateurs. Ce qui nous intéresse chez cet homme aujourd'hui, c'est qu'il s'appelle Paul Martin et qu'il aurait pu être un personnage de notre déjà fameuse série Paul et Jeanne Martin, s'il n'était pas décédé en mars 2021. Sauf que coïncidence, pas si étonnante, en cherchant un peu, on trouve deux autres photographes nommés Paul Martin qui eurent fait un épisode encore plus fou. Le premier, ou le deuxième Paul Martin photographe, est hélas mort il y a encore plus longtemps. Il a été exposé au MoMA de New York plusieurs fois et a commencé la photographie à ses débuts, au 19e siècle, lorsqu'il avait une dizaine d'années. Issu d'une famille ouvrière de la Meuse, il devient citoyen de Sa Majesté la Reine d'Angleterre et recevra lui aussi un prix prestigieux, la médaille royale de la Royal Photographic Society pour sa série de photos prises de nuit au cours d'un hiver et qui représente, d'après les connaisseurs, une des premières tentatives sérieuses de photographie de nuit. Et puisque c'est à la fois notre sujet et Paris Photo cette semaine, je m'en voudrais de ne pas finir en mentionnant Paul Martin, photographe de mode, dublinois, qui est très actif et bien vivant sur Instagram. Tout de suite donc dans Les Pieds sur Terre, deux autres Paul Martin qui ne sont pas photographes, qui sont bien vivants et français, s'il vous plaît. Par Valérie Borst.
Je m'appelle Paul Martin, j'ai 30 ans, j'habite à Crépy-la-Pape, au nord de Lyon. J'ai un chien qui s'appelle Elliot et je suis amoureux de ma femme qui s'appelle Manon. On s'est mariés ça fait 3 mois, un peu plus de 3 mois. Donc c'est pas une Jeanne Martin, c'est une Manon Martin maintenant. C'est pas tellement le nom, hein, le gros changement, c'est quand même le fait de se marier, de se dire bon, on va vivre une aventure ensemble, c'est parti pour la vie à deux. Ça fait un peu foyer, quoi, un peu famille, on est tous sous le même nom, si on a des enfants ils auront le même nom. Et c'est vrai que Martin c'est pratique, hein, parce que dès qu'on doit les plaire, bah, c'est très facile. Sur Google, impossible de se faire trouver, parce que des Paul Martin il y en a tellement que personne ne peut me trouver, donc il y a un côté anonymat qui est assez sympa. C'est un nom qui est simple, qui est courant, mais bon, moi ça me va. Pour présenter un peu ma vie, c'est pas facile comme exercice. Je suis originaire d'un village au nord de Lyon qui s'appelle Rérieux. J'ai fait mes études dans la région, jusqu'à mon lycée. Ensuite, quelque chose qui m'est arrivé quand j'avais 15 ans, je suis allé voir une projection d'un film d'aventure. En fait, c'est mon père qui voulait aller voir cette projection. Et ma mère m'a proposé d'y aller... un peu pour lui faire plaisir. Moi, j'avais pas trop envie. C'était une personne qui organise des voyages d'aventure, qui allait en Mongolie, en fait, dans des camps de nomades. Et à la sortie de cette projection, mon père m'a proposé de partir avec lui en Mongolie. Moi, j'avais 15 ans. À l'époque, je voyais pas forcément beaucoup mon père non plus, parce qu'il travaillait pas mal. Donc, je trouvais que c'était une opportunité sympa. Et du coup, là, c'est là où ça a déclenché. On a pris des cours particuliers d'équitation. On a fait un an de cheval pour pouvoir partir galoper dans les steppes pendant 3 semaines, quoi. Ça, c'était hyper fort. On dormait soit dans des yourtes, soit sous la tente. On allait chez les nomades. On a vécu des choses assez incroyables ensemble, quoi. Des paysages magnifiques, des moments pas faciles aussi. À la fin des journées de cheval, on est fatigué, il pleut. Même sur le côté pratique, je pense qu'il m'a appris pas mal de choses sur comment se débrouiller, comment vivre une aventure, comme un père montre à son fils comment vivre une aventure loin de chez soi, quoi. Il y avait un rôle un peu modèle qui était cool, que moi, j'avais pas forcément dans ma vie quotidienne. Je pense que c'est la première fois que j'ai bu de l'alcool. Je sais pas si c'est la première fois ou pas, mais les Mongols là-bas, ils font des kilomètres à cheval et ils ont une bouteille de vodka dans leur toge là. Et ils arrivent et ils se mettent autour du feu le soir. Et bah, alors, on chante une chanson, on boit un verre, du sec, donc un demi-verre de vodka. Et du coup, on fait plusieurs tours, forcément. Et du coup, ouais, avec mon père, on s'est pris une petite cuite tous les deux, en plein milieu de la pampa, là, à faire des steps, c'était assez marrant. J'avais jamais fait ça avec mon père, c'était à l'époque un peu plus la figure autoritaire. Je me voyais pas forcément au début lâcher les chevaux avec lui. C'est vrai que dans la vie quotidienne, le soir, il rentrait, enfin, il faisait des bonnes journées de travail. À la base, il est ingénieur électricien et il est resté quasiment toute sa carrière dans la même entreprise. Et du coup, il est monté un peu dans la hiérarchie et à la fin, il était plutôt dirigeant. Donc, la semaine, pas forcément trop de temps qualitatif ensemble, je pense. Mais c'était un âge où moi, je venais d'avoir une moto et je m'amusais avec mes copains à sortir. Enfin, je sortais tout le week-end en fait. Et je passais pas trop de temps en famille. Du coup, ça, je pense que ça nous a fait du bien de se reconnecter, quoi. Du coup, ce voyage m'a beaucoup marqué, et ça, c'était à la fin de mon lycée. Et je savais pas trop ce que je voulais faire après le lycée, mais je savais que voilà, j'avais envie de bosser dans le voyage d'aventure, mais je savais pas par quelle porte rentrer. Donc moi, j'étais plutôt à l'aise avec les chiffres, donc j'avais fait un bac économique. Du coup, je suis parti dans un IUT de gestion. Et après, ça a commencé à me titiller, cette histoire de voyage d'aventure. Du coup, je suis parti en Erasmus en Espagne, à Grenade, où j'ai commencé à étudier le tourisme. Et j'ai fait mon premier stage de 6 mois donc à Paris, dans une agence de voyage sur mesure. Je bossais avec plein de gens qui étaient implantés dans plein de pays du monde entier. Et c'était plutôt des expériences assez chouettes. Ça pouvait être des survols en montgolfière à Bagan en Birmanie. C'était des lodges de luxe dans le Botswana, dans le delta de l'Okavango. Donc c'était hyper enrichissant. Et moi j'avais envie d'aller en Amérique du Sud parce que c'est un continent qui m'a toujours un peu fasciné, entre autres parce qu'il y avait l'Amazonie et voilà. Donc je suis parti du coup 6 mois là-bas. Donc changement de vie total, hein. Mon job en gros c'était de j'assistais les personnes qui organisaient des voyages sur mesure, donc des voyages d'aventure. Donc je travaillais un peu avec les guides, avec les hôtels. C'était assez concret, c'était cool, c'est ce que je voulais. Et puis je me suis aussi un peu rapproché un peu de la spiritualité, on va dire, amazonienne à travers j'étais allé voir un chaman où j'ai fait une cérémonie un peu avec des plantes locales qu'on appelle de l'ayahuasca, où c'était l'idée c'est de faire des états modifiés de conscience. Donc en gros de partir un peu dans d'autres dimensions de son esprit pour faire simple. Enfin, les indigènes le voient comme une thérapie, c'est quelque chose pour soigner quelque chose en fait. C'est pas un trip. Un délire de on prend de la drogue ou et on va s'amuser. J'avais quoi, j'avais 23 ans, j'avais des petits soucis, des petites préoccupations, est-ce que je vais réussir mes études, est-ce que je vais rencontrer une fille bien.
Avant de rencontrer Manon, j'étais pas très avec les filles. J'étais peut-être un peu solitaire ou un peu dans ma bulle ou un peu spécial. Tant qu'on n'a pas trouvé quelqu'un avec qui ça marche, on se dit bah peut-être que je vais rencontrer personne quoi.
C'est une cérémonie qu'on fait du coup dans l'Amazonie. Avec quelqu'un qui nous encadre, et en fait on prend un breuvage qui est un concentré de racines, et après voilà, on a plus ou moins des visions sur son passé, qui sont plus ou moins agréables. C'est assez impressionnant, voire même un peu flippant à certains moments. J'avais l'impression de me recroqueviller sur moi-même et de devenir un peu presque animal, quoi. Je faisais des bruits, c'était pas des bruits humains. C'était des bruits presque reptiliens, enfin, c'était assez impressionnant. Et l'idée, c'est qu'après, bon, la plante, elle se balade en nous, et qu'après, on ressorte ce qui n'est pas forcément bien en nous, et du coup, on vomit. On a l'impression de se soulager de quelque chose, quoi, d'un poids. On a l'impression de s'être libéré de quelque chose, ouais. Et après, je suis allé nager, il y avait un espace où il y avait de l'eau, et j'ai jamais trop nagé la brasse, et là, j'arrive à nager la brasse sans problème, avec le corps bien droit. Je me sentais un peu plus libre, comme déchargé, quoi, donc bien. C'est pas comme si on voyait avec nos yeux comme dans un rêve, c'est vraiment de l'information qui nous arrive. Je me revois, je prends ma mère dans mes bras, je crois. Comme si c'était un besoin, quelque chose qu'il fallait que je fasse. Ça m'a chamboulé, quoi.
Ma mère, ma maman, je l'aime beaucoup. Je sens qu'elle est toujours là pour moi, pour que je me sente bien. Elle comprend naturellement comment je fonctionne, je pense. Et ça, c'est un lien qui est un peu... C'est pas palpable, mais c'est important, quoi. Donc, ouais. Donc, ouais, je pense que c'est une relation qui est assez forte, quand même.
Du coup, ça a un peu changé ma vision de la vie sur certaines choses. Et du coup, ce côté pragmatique a été un peu remis en question. J'étais plutôt quelqu'un de cartésien. Je me raccrochais aux choses tangibles que je voyais. Et du coup, c'était quelque chose d'assez nouveau. En fait, c'est intéressant juste d'observer son cerveau. Et ça m'a donné envie d'observer en fait comment je fonctionnais. Donc, j'ai commencé à m'intéresser un peu à la méditation. Et en fait, de façon plus simple, juste... à m'intéresser à comment, à juste observer mes pensées, quoi. Des fois, je pense que je me trouvais un peu égoïste dans on pense qu'à soi, on pense qu'à assouvir ses propres besoins, ses propres désirs, et ça peut aller à contre-temps de la vie en communauté, de la vie en famille ou de plein de choses. Ouais, ça m'intéressait de refaire la part des choses, en fait. Les valeurs d'amitié et de famille sont importantes pour nous. Recevoir des gens, essayer de faire le bien autour de nous. Ouais, essayer de faire des bonnes choses, quoi. C'est ce que j'essaie un peu de continuer à faire. Donc on est quatre dans ma famille, donc il y a mes parents et ma sœur. Donc c'est vraiment le cercle proche. Il y a aussi ma grand-mère, mamie Denise. Donc je suis assez proche. Après, il y a aussi en ami, j'ai des copains d'enfance de mon village que j'ai gardé des liens assez proches. Hein. On a chacun des parcours de vie assez différents, mais à chaque fois qu'on se retrouve, c'est très simple et très, très vrai, très sincère. Et c'est des liens assez forts, quoi. Quand on était copains d'enfance, on savait qu'on arrivait vers 18 ans et que la vie allait nous séparer. Il y en a un qui est parti en Australie, d'autres en Espagne. Enfin bon. Et on voulait un jour se retrouver pour être sûr que l'amitié reste, quoi. Et on s'est dit, bah, pourquoi on ferait pas un tatouage sous le pied, que personne ne verra jamais, mais nous on saura avec une date et qu'on se retrouvera dans 20 ans, quoi. Donc c'est en 2032. Et du coup, voilà, on est une quinzaine, je pense, à avoir ce tatouage, nos trois nombres. Le 14 juillet 2032. On va tous se retrouver, il y a des personnes qu'on a perdu du, hein, un peu déjà. On va se retrouver et je pense qu'on va sûrement faire une soirée chez l'un d'entre nous. Je sais pas, on n'a pas trop réfléchi, c'est déjà dans 9 ans, enfin plus que 9 ans. Donc ça va vite. Alors ouais, j'ai eu une période de voyage et j'aime toujours un peu passionné. Mais après, il y a une nouvelle dimension qui est rentrée en ligne de compte, c'est la dimension écologique qui fait que je me suis rendu compte que j'ai pris énormément l'avion et j'ai fait un peu mon bilan carbone et je pense que j'étais rien qu'en avion à plus de 50 tonnes, rien qu'à moi-même dépensé dans... Du coup, je me suis dit, une nouvelle résolution, c'est de plus trop prendre l'avion, en tout cas bien limiter et plus faire des voyages comme je pouvais faire avant. Je pouvais prendre l'avion pour un week-end ou même rien que prendre l'avion pour 2 semaines. Et du coup, maintenant, je limite beaucoup. Maintenant, je me dis une fois tous les 2 ans. Le prochain voyage, j'aimerais que ça soit avec Manon en Martinique pour aller voir son père biologique, enfin sa famille biologique. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu. Donc, ça a du sens. Pour le coup, c'est rencontrer la famille, potentiellement le grand-père biologique de mes enfants. Donc, bon, c'est quand même important. Donc, on se limite. On prend le train ou on voyage pas, quoi. Et on s'est reconvertis tous les deux avec Manon. Moi, j'étais dans la partie tourisme, organisation, vente de voyages sur mesure. Et du coup, je suis consultant en informatique décisionnelle où, en gros, je fais des tableaux de bord pour des entreprises. Voilà, donc changement de vie drastique, beaucoup plus zen. Tout le temps sur l'ordi, moins de clients à gérer, mais beaucoup plus paisible. Mon boulot, je l'aime bien, mais c'est pas un truc qui me passionne non plus. C'est un peu un gagne-pain, quoi. Et donc, le truc que je suis content dans la journée, c'est quand je vais me balader avec Elliot et Manon, ou je vais faire de la clarinette, ou je cuisine un truc. Et ouais, la clarinette, ça fait partie des trucs qui me. Quelque chose qui me fait du bien, quoi, que j'aime bien. J'ai pas mal voyagé, appris l'espagnol, l'anglais, etc. Et en fait, il y a une langue qui est vraiment universelle. Et ce qui est frustrant, par exemple, quand on voyage en Asie, c'est qu'on peut pas parler français ni anglais, enfin, pas vraiment, en Mongolie. Et une langue qui est universelle, c'est la musique. En fait, avec la musique, on peut faire passer une émotion, plus ou moins facilement. Et ça, je trouve que c'est, au final, c'est un peu la dernière langue que j'ai envie d'apprendre. Avec la musique, on peut parler à tout le monde. Et ça me fascine, en fait. Je trouve ça vraiment chouette. Faut juste que j'échauffe un peu avant, parce que sinon, ça va. Thank you.
Je m'appelle Paul Martin, j'habite dans la petite ville de Pouilly-sous-Charlieu, c'est la Loire. Je suis un gamin qui est né pendant la guerre, 1941. Avec le nom que je porte, Paul Martin, nous devons être certainement en France une bonne lignée que je ne connais pas. J'ai grandi dans une famille de paysans désargentés, mais par contre, de braves paysans, courageux. Même, vous voyez, aujourd'hui, des fois, je me dis, t'as pas toujours été très sympa avec tes parents. Pour des détails, plus particulièrement avec mon père, qui était, pour moi, la graine des braves gens. Je suis parti à l'armée à peine 20 ans. Après, je suis rentré chez Singer. J'ai vendu tous les types de machines à coudre familiales qui peuvent pratiquement se trouver encore aujourd'hui sur le marché. C'est très souvent que je retrouve des gens « Eh ben votre machine à coudre, mais c'est qu'elle tourne toujours !» Des gens à qui j'ai vendu une machine à coudre il y a 50 ans. On tapait les portes, toc toc toc. Faire du porte-à-porte et en vivre, c'est pas facile. Au départ, surtout les premiers mois, les premières années, on en a pris dans la figure, des portes. Et puis petit à petit, vous faites un trou. Et là, les gens apprennent à vous connaître. Vous apprenez à connaître les gens. Et ça arrive à créer un contact. Et ce contact, si vous savez l'exploiter, en principe, il est porteur. Parce que des fois, une vente, c'est une affaire de minutes quand ce n'est pas une affaire de secondes. On appelle ça la technique de l'entonnoir. L'entonnoir, c'est tout simplement qu'il faut que le client potentiel qui vous écoute et qui puisse pas vous dire non. J'avoue que c'est un peu du rail, mais c'est jouable. C'est peut-être un peu vachard, mais vous êtes là pour gagner votre vie. Vous n'êtes pas là pour faire œuvre de charité. Je suis arrivé au maximum à peu près à en vendre 150 dans l'année. Vous aviez le top niveau, c'est-à-dire la panoramique, où c'était la 401, où c'était la 411, mais c'était les deux mêmes en fait. À partir des années 70, on s'est mis à vendre aussi des appareils ménagers. On a vendu parmi les premiers télécouleurs. On a vendu les premières Thomson Soleil, qui étaient une machine qui lavait le linge et qui le séchait. Ils ont même essayé de vendre, mais ils se sont cassés la gueule là-dessus, ils ont essayé de vendre des meubles. Il y a eu aussi les machines à tricoter électroniques. On a eu un panel d'objets à vendre assez impressionnant. Et j'avais appris à réparer les machines à coudre. Tout seul. Moi, perso, il m'est arrivé de passer pratiquement des nuits dans la cave pour réparer une machine à coudre où Singer mettait 3 semaines pour la réparer. Moi, je la prenais le soir et le lendemain matin, je ramenais la machine à coudre au client. J'ai élevé mes 4 enfants uniquement avec mon salaire de Singer. Dans ce métier, pendant des années, c'était un peu la fête permanente. Je considère que j'ai été alcoolique. Moi, je buvais trop. J'ai décidé un jour, il y a plus de 25 ans, de m'arrêter. Je me suis arrêté en pleine journée sans prendre aucun médicament. Et pour moi, ça a été une croix. Et après, ça a été pendant 7-8 jours l'épreuve du bras de force, parce que vous n'êtes pas forcément dans un état extraordinaire, parce que ça vous secoue, mais très rapidement, j'ai une volonté de faire. 4 ans après, ma femme est partie, elle est décédée suite à des problèmes d'alcoolisme. Souvent, les gens, avec le fromage, ils boivent un canon. Moi, j'ai continué à bien aimer le fromage, mais le canon, c'est du terminé. Vous pouvez me mettre un tonneau, je ne le regarde même pas. Et j'ai de bonnes raisons, pourtant, puisque j'ai perdu un fils. Il y a 3 ans, l'alcool a été pour beaucoup, et puis en plus il avait des rhumatismes déformants. Et j'ai encore un autre fils qui picole. C'est pas brillant. L'alcoolisme, j'allais dire, c'est presque la maladie du siècle, avec le chichon et autres fantaisies qui, hélas, bousillent des vies. J'en tire surtout une conclusion, c'est que pour moi, l'alcool est devenu quelque chose qui me répugne. Mais totalement. Parce que je sais trop, ça fait partir ma femme, mon fils. Et ce qui me touche, c'est de voir qu'il y a un fils de parti et un autre qui est sur le mauvais chemin. C'est ça qui me fait plus faire de soucis. Et il y a beaucoup de gens qui ont cru que j'allais repicoler. Derrière, vous avez un décès qui vous touche d'aussi près. Ça m'est même jamais passé par la tête. À l'époque, je vendais mes machines à coudre. Je réparais des machines à coudre. Je commençais à faire la tournée des tiroirs. Parce que j'ai vu des gens ouvrir un tiroir. Il y avait un stock de... Alors je leur avais changé un hublot de machine à laver. Et il y avait la mamie, elle m'a dit « Emmenez-moi toutes ces cochonneries !» Oui, parce que chez les gens, c'était l'époque, ils traînaient encore dans les tiroirs des paquets de vieilles pièces de 10 francs et 20 francs. Et puis petit à petit, que j'ai mangé à plusieurs râteliers. Et dans ce râtelier, il y avait en particulier Brocante Antiquité. Et c'est de là que tout ce qui était jouable, pratiquement, je m'en suis servi. Et là, il a fallu s'accrocher, parce que, faut pas oublier, c'est un métier de chacal. Si vous devenez un bon connaisseur, vous vous en sortez. C'est un métier, il faut se battre. J'étais chez Singer, je travaillais uniquement à la commission et j'y suis quand même resté 15 ans. J'ai quitté Singer en 79, après m'être tenté quand même, parce que je quittais un métier dans lequel je m'étais fait une place pour en attaquer un autre dans lequel je n'avais pas ma place au départ. Avec la hiérarchie, ça n'a jamais été. Il a fallu que je me mette à mon compte pour pouvoir librement m'exprimer. Et c'est de là qu'est partie cette histoire de Brocante. Mais je n'ai pas toujours été à la fête pendant quelques mois, voire si ce n'est pas quelques années. Et ça fait 44 ans que je me déplace pour aller voir des successions, de tout. J'ai 82 ans, mais je n'ai pas envie de m'arrêter. En bientôt 60 ans, j'en ai vu de tous les types. J'allais presque dire depuis l'idiot du village jusqu'à la grosse tête. L'autre jour, je suis tombé dans une maison. C'est pas mieux, c'est la semaine dernière. Il y avait instance de divorce. Et alors là, ça allait pas fort. Lui, c'était un enfant adopté, mais un enfant adopté par des nobles. Et il se contrefoutait des objets. Une commode sur laquelle j'ai dû... bon an, mal an, on a multiplié par 3. Voilà. Quand c'est un petit objet, il faut un très gros, très très gros coefficient multiplicateur. Autrement, vous n'y arriverez pas. Moi, j'ai été piégé un jour par un gus, il n'y a pas longtemps. Un gars qui m'amène un bronze. 8 jours après, je vois avec le père, qui était médecin. Le fils avait piqué le bronze au père. Et il me l'avait vendu. Alors, heureusement, je m'en méfiais. J'avais le bronze ici, et je ne l'avais pas mis en vente. Le père, je lui ai dit, écoutez, monsieur, c'est très simple. Vous me rendez mon fric, et moi, je vous rends le bronze. La ferronnerie, c'est ultra bon. À l'heure actuelle, tout ce qui est en ferraille se vend. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on vende un ou deux objets à 100, 150 euros, pratiquement toujours dans la ferraille. L'autre jour, j'ai une personne, vous savez ce qu'elle nous a dit ? J'aime trop venir ici à cause du bordel. C'est devenu une boutique, un peu, j'allais dire, de par ma faute. Il y en a de partout, voilà. Je continue d'y croire, je continue de croire dans ce métier. Ça se terminera un jour, j'espère, le plus tard possible. J'ai énormément de gens avec lesquels je suis copain. On va aller chez le Père Martin, voilà. On ne sait pas quoi faire, un dimanche, par exemple, ben, j'en vois arriver, voilà. Et ça aussi, ça compte.
My future self in the mirror, he said, only you can save us now. So I'll say it out loud in a crowded room, at the top of my lungs. I want you to know I love you so, but I need you to be a lifeline for me. And if you could be a lifeline for me, I'll be a lifeline for you someday, you'll see. And I won't let go, no, I won't let go, no, I won't let go. Hanging off the edge of a canyon, or maybe you just can't seem to climb out of bed.
C'était Paul et Jeanne Martin, 3e épisode, au bout du monde et au coin de la rue, un reportage de Valérie Borst réalisé par Anne-Laure Chanel, avec un coup de main d'Éric Lancien et mixé par Jordan Fuentes. Merci à Paul Martin et Paul Martin. L'attaché de production des Pieds sur Terre, Céso, est coupé et notre stagiaire, c'est Hortense Martin.